Bleu, RCFM.
France Bleu.
Yeah.
Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Soyez les bienvenus dans votre émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Ce soir, nous parlons de la parution de ce très beau livre. Et nous nous rapprochons de Noël. Vous comprenez ce que je veux dire. Ça s'appelle Palais de mémoire. Palazzi d'America, Nidi ou Gabi Gours ou Eddie Wallagne. C'est signé Sylvia Gagninacci et Jean-André Berthod. C'est publié aux éditions Albian. Et ce livre paraît après une très belle exposition qui avait eu lieu, souvenez-vous, au musée de la Corse. Nous en avions parlé. Une exposition donc à Corté, et le livre est enrichi d'autres photos. C'est ce qu'ils nous expliqueront ici dans quelques secondes. Bonsoir à tous les deux, Sylvia et Jean-André, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir.
On avait parlé du projet d'un livre, il est là, je l'ai entre les mains et ça c'est formidable, après cette exposition qui a été très visitée sur les palais d'Américains du Cap Corse. Sachez que dans cette émission, nous retrouvons également Michael Andréani. Bonjour Michael.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous.
Marc-André Castellani sera là aussi aux alentours des 17h30 et puis Laurent Hérin, bonsoir.
Bonsoir Marie, bonsoir.
Car chaque mardi, nous parlons cinéma dans Toc Toc. Comment est né le projet, déjà, de vous réunir tous les deux, Sylvia et Jean-André? Qui a fait appel à l'autre?
C'est le hasard,
dire. C'est moi qui fais appel à Jean-André. J'avais en tête...
Vous n'avez pas la même version du
cette
tout.
Cette histoire de maison d'Américain.
Elle m'avait dit que c'était le hasard, ça faisait...
Et Jean-André était sur le chemin de ce projet. Et donc... il y avait aussi le musée de la Corse qui voulait faire une exposition sur ce sujet. Donc, disons que c'est une conjonction, un bon alignement d'étoiles.
Sylvia, vous y pensiez parce que cela est inscrit dans votre propre histoire familiale et vous aviez envie d'écrire là-dessus, de faire des recherches, d'en savoir plus.
Oui, bien sûr, c'est parti de là, c'est parti de mon histoire familiale puisque mes arrière-grands-oncles et grands-pères sont partis au Venezuela. Et sont revenus tous dans la vallée de Santa Maria di Lota, où ils ont fait construire trois magnifiques palais. Et ces palais, disons que ce sont des récits qui ont nourri mon enfance. Et à l'époque, quand je suis née, il n'y avait plus du tout d'argent, il n'y avait plus tellement de fortune, même plus du tout. Mais il y avait au contraire, il y avait en revanche des récits absolument mirifiques. Et j'ai grandi avec ces récits-là, et puis il y avait ces maisons que je voyais tous les jours de mes vacances, puisque moi je vivais à Paris, mais je venais encore sans vacances. Et dans l'imaginaire d'un enfant, ben, effectivement, quand on parle de mine d'or, quand on parle de... et quand on voit les maisons, et à l'époque, je rentrais dans l'une d'entre elles et je voyais ces peintures, ces magnifiques peintures au plafond, et puis tout a disparu dans l'histoire familiale, j'étais très impressionnée. Et puis je me suis aperçue, grâce à Enrique Vivogni, que cette histoire, que moi, en tant qu'enfant, je pensais la mienne, elle était partagée par toutes les familles du Cap Corse. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai eu envie d'aller voir les gens qui avaient été nourris par les mêmes histoires que moi.
Alors, il y avait le lustre de ces maisons, qui, évidemment, dans la tête d'une petite fille, devait faire voyager votre imaginaire. Est-ce qu'il y avait aussi l'idée de venir d'ailleurs, d'avoir des parents ailleurs? Il y avait quelque chose de ce type-là ou pas?
Non, ils étaient tous rentrés, donc il n'y avait pas tellement de parents ailleurs. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir, d'aller visiter d'autres maisons.
Et ils se sont tous mariés avec des femmes corses,
sauf un qui en a, ouais, qui a ramené une Normande, dont la famille était partie. Elle était née là-bas. Elle était née Alors à l'époque, je crois qu'ils l'avaient rencontrée aux Antilles. Mais sinon, ils sont tous rentrés. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était d'aller partager, d'aller voir d'autres maisons, voir ce qu'elles avaient gardé de l'héritage. Parce que ce qui m'intéressait, c'était pas tant l'épopée des Américains et des grands-oncles, etc., et de l'histoire, que de voir comment elles avaient traversé le temps. Et donc, l'écriture me semblait pas un moyen suffisant. Je voulais montrer les choses. Je voulais qu'on les voit. Et donc, très vite, enfin immédiatement, j'ai eu le sentiment qu'il fallait faire un livre qui était d'abord un livre de photos.
C'est très explicite quand on regarde la couverture de votre livre à tous les deux, puisqu'on voit une porte avec une chaîne et un cadenas. Parce que ces maisons, on passe souvent devant, mais on ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Et grâce à vos photos et à votre investigation, eh bien, c'est réparé. On peut pénétrer dans ces maisons qui parfois... Eh bien, ont été un peu abandonnées, d'autres fois ont été restaurées, sont ouvertes au public lorsqu'elles sont maisons d'hôtes. Vous aviez envie de mettre cette photo en couverture ?
Oui, moi j'avais envie de mettre cette photo.
Jean-André Berthaud.
J'avais envie de mettre cette photo en couverture, d'abord parce que moi j'ai une histoire familiale qui n'a aucun rapport avec les maisons d'Américains. Moi, je suis plus originaire de Castaniche et d'Italie, donc pas du tout du Cap Corse. Et justement, pour moi, elle représentait avant tout des façades et avec un univers qui n'était pas forcément facile à pénétrer, à rentrer. Donc j'étais aussi, moi, dans cette quête, dans cette découverte, à travers les récits qu'avait pu m'en faire Sylvia par rapport à cette histoire familiale, et de découvrir et de mettre en image, d'imaginer au sens premier du terme. Je me suis rendu compte, c'est marrant qu'on en parle, je me suis rendu compte il y a quelques jours, que le premier bouquin que j'avais sorti avec Abdelkader Gemay aux éditions Thierry Magnier, Un taxi pour la mer, la première photo était une photo d'un portail en Sardaigne avec un verrou dessus. Donc je me suis rendu compte que c'était le deuxième bouquin que je sortais, sans avoir fait le rapprochement entre les deux, que c'était le deuxième bouquin que je sortais avec une porte fermée. Donc peut-être que la photographie, c'est ça, c'est peut-être une invitation à pousser les portes et à passer de l'autre côté.
Et à passer parfois de l'autre côté de la mer pour raconter leur histoire, parce que même si ça vous intéressait moins que ces maisons actuelles, que sont-elles devenues, ça nous permet quand même de plonger dans notre histoire à tous, l'histoire de ces Corses. Alors parfois, ils étaient déjà fortunés, et ils sont partis pour investir et ont fait encore plus fortune. Parfois, ils ont eu un revers de fortune. Parfois, ils sont partis de rien et ont pu justement avoir la chance de faire fortune et sont revenus pour montrer justement aux autres qu'ils avaient réussi avec des palais incroyables, des tombeaux tout aussi incroyables. Et dans ce livre, on va se rendre compte que le photographe ne fait jamais de mise en scène.
Jamais. Jamais. Je fais jamais de mise en scène dans mes photos, à part celles que je fais en studio, mais là où je suis justement dans un univers complètement ailleurs. C'est un univers que je reconstitue, mais quand je suis en prise avec le réel, je crois que c'est à nous de trouver, quand je dis nous par rapport à la photo, de trouver les angles qui vont permettre de créer ces compositions, mais d'intervenir sur le. Pour moi, ça serait comme le trafic est le réel, en quelque sorte. Et c'est le regard qui fait la mise en scène. On n'a pas besoin de déplacer les choses.
Non, mais du coup, en plus, ça trahirait le désir de Sylvia qui voulait savoir ce que c'était devenu aujourd'hui. Et du coup, si on fait une mise en scène, on n'est plus dans la réalité.
Oui, et puis la photographie, ouais. C'est un espace ouvert. C'est-à-dire qu'à partir de là, les gens vont pouvoir... si jamais je commence à mettre en scène, même par rapport à ce que me dit Sylvia, on arrive dans une subjectivité totale. Alors que là, on présente vraiment quelque chose de complètement ouvert, où les gens vont pouvoir, dans l'image, justement, faire leur propre cheminement, se rapprocher des textes de Sylvia, voir comment ils font écho les uns par rapport aux autres. Parce que je crois que ce qu'il y a d'important, ce qui m'a beaucoup plu dans ce travail, c'est justement la collaboration entre l'écrit et l'image. Et c'est pas l'image n'est pas posée à côté de l'écrit et vice versa, mais c'est vraiment un travail qui s'est fait de conserve, je pense.
C'est-à-dire que ni le texte, ni les images illustrent l'un ou l'autre. Ça n'a pas été conçu comme ça.
C'est-à-dire
du tout.
Que l'un, le texte évoque les images, parce qu'en fait, j'ai écrit ces textes avec les photos qu'on avait prises. Donc, j'ai cherché un rapport entre l'image et ce qu'elle m'évoquait, tout en me donnant pour mission de quand même raconter un tout petit peu l'histoire de la maison,
mais oui.
Et que ça reste compréhensible. Donc, c'était un fil assez ténu et difficile à tenir entre l'évocation, le souvenir, la mémoire et quelque chose quand même qui informe, quelque chose qui soit informatif pour que l'esprit puisse voyager entre ces deux pôles, on va dire.
Certains ont refusé d'ouvrir leurs portes.
Non.
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 Elle a réfléchi quand même. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de ce livre, Palais de mémoire, que vous retrouvez. Non, non, mais on a bien compris, non.
Non, non, c'est non. Je réfléchissais s'il y en avait un, mais non, en fait.
Pas du tout, au contraire. Ils étaient plutôt contents de montrer leur maison. Palais de mémoire, publié chez Albian.
Que siempre he deseado. Déjame creer que amar puedo obrar un milagro. Que tú me dirás palabras que funden el hielo. Lo deseo. No dudo que vas a mentir. Sabes que no confío en ti, pero me tienta oír de tu voz lo que me alienta, promesas que me calmarán, tristezas que se borrarán, las farsas que nos inventamos nos hacen más dulce vivir. Háblame de amor con frases que siempre he deseado. Mi pasión, mi posesión, va más allá de cualquier fórmula vacía. Calma el dolor de las heridas, distancias que se salvarán, abrazos que nos unirán, el viejo y eterno remedio que un día nos redimirá. Háblame de amor con frases que siempre he deseado.
Sylvia Ganinach et Jean-André Berthodzi pour publier, pour la publication de ce livre Palais de mémoire chez Albian. Vous vouliez ajouter quelque chose qui vous vient à l'esprit, Sylvia ?
Je vais laisser Jean-André.
Jean-André.
Oui, l'expo va être représentée au mois de février à l'Albor ou à Bastia. La date précise, pour l'instant, on l'a pas encore. Mais on va en remonter l'expo et refaire une signature à l'Albor au courant février. Mmh.
La même que celle du musée de la Corse ou différente, augmentée ou que sais-je ? Tout dépend de l'espace, voilà, encore. Vous ne l'avez pas encore investi.
Il faudrait voir par rapport à l'espace. Ouais. On a moins d'espace, peut-être en linéaire, qu'on en avait au musée de la Corse. Donc peut-être qu'on va faire une sélection dedans. Mais en gros, il y aura à peu près l'expo de Corté. Voilà.
Bon. Michael Andréani. Nous étions déjà intéressés à ces maisons d'Américains pour cette émission.
Récemment, effectivement, mais c'était quand même évident d'en reparler encore ce soir et via ces maisons, bien sûr, l'histoire de ces Corses, Cap Corsa surtout, donc en très grande partie, et qui ont choisi de voguer vers les Amériques pour connaître un avenir meilleur. Alors, si on retrouve des Cap Corsa déjà par ces contrées dès le 16e siècle, c'est surtout au 19e que ces voyages vont quand même prendre de l'ampleur. Dès cette époque, en effet, les difficultés économiques se sont accrues dans l'île. Les lois douanières qui taxaient les produits sortant de Corse avaient particulièrement freiné l'activité commerciale, tandis que le vin principale denrée exportée s'est vue fragilisée dès 1870 par la maladie, en l'occurrence le phylloxéra de la vigne. Émigrer devient donc inévitable et les points de chute les plus souvent choisis seront le Venezuela, les États-Unis, l'Argentine, Haïti, Saint-Domingue ou encore Porto Rico. Parmi ces milliers d'immigrants, nombre d'entre eux vont s'embarquer comme marins pour payer le voyage. Mais si souvent ce sont des raisons économiques qui poussent ce peuple à prendre la mer, il n'est pas rare tout de même de retrouver des médecins ou des personnes déjà assez fortunées, comme vous le disiez Marie, pour tenter l'aventure américaine. Tout simplement parce qu'ils avaient déjà sur place un frère, un cousin ou même quelqu'un du village. Ces Cap-Corsins vont faire notamment fortune dans les mines, vous l'évoquiez Sylvia, vont diriger des exploitations de canne à sucre ou de café, vont s'enrichir grâce au négoce ou encore même par le biais de mariages. Ils seront peu nombreux également à revenir en Corse, seulement 10 à 15% à la fin du 19e siècle. Mais ceux qui auront fait ce choix de revenir vont ériger effectivement ces fameuses maisons, ces palaces, ces tombeaux gigantesques, de véritables signes extérieurs de richesse et donc de réussite sociale, presque de revanche sur la vie, on serait tenté de dire, et qui contrastent drôlement quand même avec les habitations de ceux qui, eux, n'ont pas quitté le Cap. Et par ailleurs, si tous ceux qui sont partis n'ont pas fait fortune, la personne qui réussissait, elle, en revanche, n'hésitait pas à envoyer toujours un peu d'argent et à faire travailler le village d'une certaine manière. Et pour terminer et revenir un peu à notre époque, on estime aujourd'hui que Porto Rico compte pas moins d'un million de descendants de Corse, même si le flux migratoire s'est quand même tari à partir de la Première Guerre mondiale, entre les pertes humaines nombreuses et pour ceux qui restaient, les personnes valides, la voie quand même plus facile de l'administration dans les colonies plutôt qu'un départ à l'aventure.
Merci Michael Andréani. D'où partent-ils, de quel port partent-ils ces Corses? Des ports du Cap Corse ou de Bastia, ou d'où partent-ils?
Je me souviens qu'ils partent de Marseille. Enfin, donc ils partent du Cap Corse forcément.
Ouais.
Mais ensuite, je pense qu'ils prennent le bateau à Marseille.
Parce qu'on sait déjà qu'il y a des échanges commerciaux, surtout lorsqu'on lit votre livre, assez tôt, dès le XVIe siècle, des ports de Morcilia ou des ports du Cap Corse.
Mais c'est-à-dire que la tradition du Cap Corse, ils ont toujours été tournés vers la mer, les Cap Corsins, puisque ils faisaient aussi la récolte du corail. C'est aussi la compagnie Valère, c'est une compagnie qui a été montée par des gens du Cap Corse, donc qui était la première compagnie qui faisait les allers-retours avec le continent. Donc c'est vrai, on dit l'île dans l'île, donc la Corse tournée vers la terre, les Cap Corsins tournés vers la mer, c'est une réalité. Donc cette émigration, elle a commencé effectivement dès le XVIe siècle et c'est pour ça qu'en fait qu'elle a pu être aussi, on va dire, aussi massive et surtout aussi étendue dans le temps, c'est que forcément dans tous les villages il y avait quelqu'un qui était parti. Donc parce que on se dit mais comment les Cap Corsins ils sont partis si loin, qu'est-ce qu'ils sont des aventuriers formidables. Ben en fait pas tellement, il y avait le cousin, il y avait le frère, il y avait l'ami, etc. Et là-bas ça allait mieux qu'ici. Donc franchement et comme ils aimaient bien la mer, ben voilà quoi.
Pourquoi ne pas y aller.
Pourquoi ouais. ne pas y aller quoi.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que certains partaient avec leur famille, femmes et enfants, ou pas trop? On partait plutôt.
On partait plutôt entre hommes. Enfin, ouais. dans ma famille, il y avait 5 garçons. 4 sont partis.
Le premier à partir, c'était qui?
Je sais plus. Ouais. En plus, ils portent tous le même prénom, Hyacinthe. Après, ils portent le prénom de l'arrière-grand-père, du grand-père, du père. Attendez, ouais. Dans les arbres généalogiques, c'est un bordel pas possible. Donc, je peux pas vous dire les noms. Non, ne me faites. En plus, j'ai pas la mémoire des noms.
Ouais.
Mais ils ont été rejoindre des gens qui étaient déjà là-bas.
Qu'ils connaissaient, bien sûr.
Et puis, avant de découvrir la mine d'or d'El Callao, ils sont rentrés, en fait, dans une association commerciale. Ils ont monté une boutique qui s'appelait Caninach Hermanos. Et puis, par des Allemands qui cherchaient à importer du Venezuela des plumes et des produits de luxe en fait pour les femmes ici, ils leur ont dit d'aller faire le commerce avec les Indiens et les Allemands. Ils ont dit nous on n'est pas très bons, mais vous les Corses vous êtes bons là-dedans, donc vous allez remonter un peu l'Orénoque, hein, vous allez voir les comptoirs indiens et auprès des comptoirs indiens vous allez récupérer les denrées que vendent les Indiens, donc les plumes, les peaux, etc., ces choses-là. Et donc ils ont été voir les Indiens, et puis la légende dit qu'il y a un Indien qui a dit moi je sais où elle est la mine d'or,
et
il serait arrivé là. Après, combien d'Indiens ils ont tué? Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais pour devenir exploitant de la plus grande mine d'or du Venezuela, je pense pas que ça se fasse rien qu'avec des sourires, quoi. Voilà. Alors après, l'histoire familiale n'en parle pas, mais voilà, c'est C'est comme ça qu'ils sont arrivés. Et après, ils sont revenus ici et ils ont choisi des femmes corses, sauf l'un qui a ramené sa Normande.
Sinon,
ouais, faisait du bien en même temps dans le sang familial.
De mélanger un peu le sang. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est sûr que on ne sait pas tout ce qui s'est passé là-bas, mais ce qui est sûr, c'est que pour la plupart, Michael parlait de descendance. Alors, c'est pas le cas chez vous, puisqu'ils sont tous revenus. Mais certains ont fait souche là-bas. Ils ne sont jamais revenus. Et ils ont occupé des postes incroyables. N'est-ce pas, Michael?
Un président de la République, même deux au Venezuela.
Raúl León, on y pense. Ça paraît assez incroyable.
Un ministre de la Santé en Argentine, par exemple. Donc, imaginez un peu de grands médecins, des artistes aussi. Des musiciens, notamment, Marie.
Un chanteur, Eddie Palmieri, qui a toute sa famille du côté du Cap Corse. Il y a le fameux ténor Paul ici, qui était originaire de Cannes et qui n'a jamais vu la Corse. Et qui a chanté à la Scala de Milan et qui n'a jamais vu la Corse et dont le père était corse, quoi, quand même, et qui a fait souche là-bas. Donc c'est assez incroyable. Lorsque vous êtes rentré dans ces maisons, Jean-André, alors j'imagine que c'est très différent ce qu'on peut ressentir entre celles qui sont restaurées, plus ou moins bien. Parce qu'elles ne sont pas toutes bien restaurées, disons-le, Sylvia.
Elles sont. Il faut beaucoup d'argent pour entretenir ces maisons.
Il faut du goût aussi.
Il faut beaucoup d'argent, surtout.
Ouais, non, beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces maisons? On ressent l'histoire, on ressent.
Oui, on ressent une histoire. On ressent une histoire très forte. On ressent effectivement le poids de toutes ces générations. On sent aussi quelque chose de. Vous le disiez tout à l'heure, une forme de. Voilà, de pas de parvenus, mais de vouloir montrer aux autres qu'on a réussi socialement.
Ouais.
Qu'on a réussi socialement. Donc il y a ce côté très.
Démonstratif.
Très m'as-tu vu, et qui maintenant nous semble d'une beauté désuète et un peu nostalgique qui nous intéresse. Ouais. Moi, ce qui m'aurait intéressé pour continuer ce projet, ça aurait été d'aller là-bas montrer cette exposition et de pouvoir circuler. On avait prévu de le faire.
C'est pas fini.
Et puis, au moment où on avait prévu de le faire, ils se sont quand même pris, on comptait partir à Puerto Rico, mais ils se sont pris un ouragan en plein dessus, donc c'était peut-être pas le moment d'aller monter une expo dans un pays qui venait d'être ravagé par un ouragan, ça se fait pas. Mais j'aimerais bien, moi c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, parce qu'il y a justement cette image de la Corse de là-bas, qui n'est certainement pas l'image que nous vivons nous tous les jours, et on a nous cette image de ce pays imaginaire qui n'est certainement pas non plus ce que eux vivent tous les jours. Donc de faire se rencontrer deux imaginaires m'intéresserait beaucoup. D'aller montrer l'expo là-bas, ça me plairait beaucoup.
On imagine également que ces maisons, ces palais ont été source de querelles au sein des familles avec les héritages et toutes les descendances. Donc, ce sont des maisons qui ont vu des familles se déchirer également.
C'est à ce moment-là où j'étais très content de ne pas être originaire de la même région.
Non, mais je dis des bêtises ou...
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Vous dites pas du tout de bêtises. Moi, j'ai pas vu mes cousins jusqu'à l'âge de 50 ans. Hein. J'avais pas le droit d'aller les voir.
Pour des histoires d'héritage.
Mais oui. Ils avaient volé la part du château. Et à 50 ans, je me suis dit, bon, c'est bon. Eux, ils n'ont rien volé du tout, d'abord, parce qu'ils n'y étaient pas.
Oui, bien sûr.
Donc, stop.
Eh oui.
Donc maintenant, on est réconciliés.
Et ils sont en photo.
Et j'ai pu faire ce travail et entrer au château.
Eh oui.
Eh oui.
Donc réparer un petit peu les querelles familiales, ça c'est important. Lorsque ces maisons sont ouvertes, elles deviennent maisons d'hôtes, c'est le cas par exemple de l'une de vos maisons. De votre
ne
famille.
Dites pas ça, on sait pardon. Jamais. De votre... Vous risquez de réveiller des querelles.
C'est foutu.
De votre famille, c'est une manière aussi de pouvoir les entretenir, ces maisons.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est énorme. Enfin, le château Caninacci qui est à San Martino, c'est énorme. Ça a été construit sur les fondations d'un couvent du XVIe siècle. Donc, il y a un cloître, il y a une chapelle. Enfin, c'est gigantesque, quoi. Donc oui.
Il faut bien trouver des moyens.
Trouver des moyens, oui.
Le choix d'avoir photographié les habitants actuels de ces maisons, pour quelles raisons vous avez eu envie de le faire, Jean-André?
C'était une double entrée dans les lieux. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai voulu que l'on les photographie sur un fond neutre, un fond noir. Et pas du tout dans l'élément, de manière à ce qu'il y ait un peu les deux facettes, c'est-à-dire la facette contemporaine qui occupe maintenant, parce que c'est aussi la question que naturellement on se pose quand on arrive devant les portes fermées, on se dit qui habite ces palais, ces maisons, et d'être une sorte justement encore une porte vers la visite de la maison. Mmh.
Comment vous les avez choisies ces maisons, parce qu'elles n'y sont pas toutes, parce qu'il y en a tellement, enfin ça serait compliqué. Sylvia,
C'était lié à l'exposition au départ.
Ouais.
Donc on savait que on voulait faire un travail qui était vraiment un travail de rentrer dans l'intimité des souvenirs de ces maisons. Donc on savait qu'on n'avait pas Beaubourg non plus. Donc il fallait restreindre le choix, ouais. Et il fallait pour faire ce travail-là au moins faire une dizaine de photos par maison. Donc 10 photos, 5, ça fait déjà 50, ben voilà, le compte y est quoi.
Donc vous avez fait un casting ou c'est au fil des rencontres ?
C'est au fil des rencontres. C'est au fil des rencontres, on les a cherchées et puis après on cherchait aussi à ce que chacune soit, même si on visait pas l'exhaustivité du tout, mais à ce que chacune évidemment ait une histoire différente de l'autre. Donc à travers les 5, il y a vraiment 5 portraits de maison d'une certaine façon. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait le choix.
Et puis 5 portraits de famille aussi parce qu'on sent les engagements différents. Voilà, parce que lorsqu'on est héritier ou lorsqu'on fait l'acquisition de telle maison, c'est parfois ou un choix de vie ou alors un poids qu'il faut assumer. Et c'est ce que nous disions avec cette maison Saint-Jacques. Elle est incroyable. Moi, j'ai très, très envie d'aller la voir.
La maison Saint-Jacques, oui, elle est incroyable. Elle est vraiment, c'est un musée. C'est une maison musée. C'est une maison où il y a toutes les étapes, toutes les strates.
La chance, c'est qu'elle est restée dans la même famille et que tout est resté dans cette maison.
Tout est resté dans cette maison. Le propriétaire est un ancien pharmacien, donc avec toute la rigueur d'un pharmacien, il a tout est classé, tout est strictement. Il y a rien qui est laissé au hasard, quoi. Toutes les strates historiques, c'est un régal pour les historiens, cette maison.
Parce que dans ces maisons, il y a aussi les meubles, les objets, les tableaux.
Tout à fait.
Quand c'est resté, évidemment, dans les bâtisses, qui racontent aussi l'histoire de ces familles et l'histoire de la maison.
Tout à fait.
C'est pas le cas de toutes les maisons.
Non. Alors, la maison qui m'a le plus impressionné, ça a été la maison de Belgodère.
Ouais.
Parce qu'on a eu une. À Belgodère, on a l'impression que les occupants sont partis, mais du jour au lendemain. Quoi.
Tout est resté figé.
Tout est resté figé. Et au début, la maison s'est refusée. J'arrivais pas à prendre de photos. Dès que j'avais une ouverture de lumière, parce que tout a été travaillé en lumière naturelle, il n'y a pas eu non plus de lumière artificielle d'année, les volets se mettaient à claquer. Au début, j'ai senti, Sylvia aussi, on a partagé un peu ce sentiment, une résistance. Et puis à un moment...
Vous avez failli renoncer ?
Non, on n'a pas failli renoncer. Mais cette maison, elle a une histoire quand même très très particulière, puisque elle a été préemptée par la mairie de Belgodère qui l'a récupérée. Et en fait, ils ont exproprié la dernière propriétaire de cette maison, qui était plus dans une santé mentale suffisante, on va dire. Donc, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Elle était à Bastia. Donc, c'est une maison... En plus, avant, il y avait eu son frère, etc. Les histoires entre le frère et la sœur. C'est une maison trouble. C'est une maison. On sentait quand on est rentré dans cette maison qu'il s'était passé des choses. Il y avait des fantômes dans cette maison. Voilà. Je crois qu'on a eu la même approche. Il y avait des fantômes.
Et puis à un moment, le vent s'est arrêté, les volets ont arrêté de claquer, et là, brutalement, tout s'est. Elle s'est livrée, elle s'est ouverte, et ça a été une des visites les plus marquantes.
Vous êtes bien sur RCFM et nous parlons bien du livre Palais de mémoire. Nous ne sommes pas dans une émission spécialisée sur les fantômes. Mais évidemment que c'est toujours particulier lorsqu'on pénètre dans ce type de maison. Est-ce qu'on ressent
Et puis la matérialisation du fantôme, ça on a tendance à l'oublier, mais le spectre que l'on voit transparent, c'est la photographie qui l'a créé. C'est à partir des temps de pause longue que brutalement les gens se sont dit, tiens, c'est peut-être comme ça. Donc maintenant, quand on représente un fantôme transparent, j'ai discuté avec plein de fantômes qui m'ont dit, on n'est pas du tout transparent. C'est une invention de la photographie, donc c'est peut-être pour ça qu'avec nos appareils, on a tendance à en retrouver beaucoup. Quoi.
Mais certaines de vos photos, on pourrait y voir des fantômes.
Il y en a.
C'est parce qu'il y en a en réalité. Allez, dans un instant, nous allons retrouver Marc-André à Castellani.
Fuga di qui, so faccia l'uto pare. Una riegi tu vive si per me. Ma lo tempo si scucina in satara d'Argentina. Quando può sapere chi è la mia vita va, qualcosa di te chi ferma di onda fa, chi non mi fa su strascina in satara d'Argentina.
Argentine compte.
Les réseaux sociaux évoluent. Et vous? Vous souhaitez développer votre activité avec WhatsApp et Instagram? Trouver de nouveaux marchés? Élargir votre clientèle? Alors rendez-vous à la journée du 6 décembre organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse au campus CCI Formation de Borgo, avec la participation de l'Agence de développement économique de la Corse.
Sauvons notre patrimoine. Participez à la restauration du château de la Poule. 1 euro de bonus pour chaque euro versé avant le 31 décembre 2019, dans la limite de 40 000 euros collectés. Salvemos nostro patrimonio. www.fondation-patrimoine.org. Rubrique Les projets, mot-clé Château de la Punta.
Si je vous parle des occasions éphémères BMW, vous voudrez sûrement en savoir plus. Alors je vous dirais que c'est 3 ans de contrat d'entretien offert, 3 ans de garantie et un financement sur mesure sur une large sélection de voitures récentes certifiées BMW Premium Sélection. Et là, je comprendrai votre envie d'aller très vite en concession BMW, car les occasions éphémères BMW, c'est maintenant et jusqu'au 15 décembre seulement.
Offre valable pour toute commande d'une BMW d'occasion dans les concessions participantes jusqu'au 15 décembre. LOA avec droit légal de rétractation. Détails sur bmw.fr.
Da Biguglia a Conca, da Morusai a Cargese, RCFM insieme si muove.
Jean-André Berthaud, Sylvia Caninacci, on le trouve partout, ce livre Palais de mémoire que vous signez chez Albiana dans toutes les bonnes librairies de Corse et d'ailleurs peut-être.
Et d'ailleurs, je pense que le réseau Albiana distribue.
Oui, il distribue sur le continent.
Donc, ouais. Comme c'est un éditeur qui fait bien son travail, je pense qu'on devrait le trouver un peu partout.
Vous avez fait une signature chez Album.
Chez Album, qui s'est très bien passé. Et donc la prochaine à l'Albor.
À l'occasion de l'exposition. Nous n'avons pas encore la date, mais...
C'est au mois de février.
Voilà, dès que nous le savons, vous nous la transmettez, nous le dirons évidemment à nos auditeurs. Marc-André à Castellane, il y en a marre de parler de San Martino di Lota, de parler de Figarella, de parler des châteaux des Ganinacci. Parlons de notre village un peu.
Un mot d'abord là, dit Zisco. Ah ouais. Hein? Alors, premier petit détail, côté Zisco, une des premières grosses vagues.
Vous savez que les auditeurs n'en peuvent plus de nous. Hein?
De Zisco.
Non mais qu'on profite à chaque fois de l'antenne.
Perficale. Hein? Allez, encore. Donc, la première petite anecdote, la première grosse vague à Zisco, ils partent avec les Génois. C'est vers le 18e et ils commencent à s'implanter dans les îles Chapelet autour de Puerto Rico, qui sont à l'époque des comptoirs corsaires, en grande partie. Et apparemment, ça se passe plutôt bien puisqu'ils s'installent. Et ils commencent à même adresser des communautés dans ces endroits où bon, probablement ils blanchissent les galions quoi, qui passent et qui viennent. Et ensuite, il y a la fameuse...
C'est jamais reluisant.
la, la fameuse grande vague d'immigration du 19e. Alors, Michael l'a dit, un contexte économique. En l'occurrence, pour l'immigration américaine, on a beaucoup cette image du Mayflower ou du Parrain, c'est-à-dire des grosses vagues de gens très très pauvres qui tentent l'aventure, qui grattent le ticket de Keno. Dans le cas des grandes familles ciscaises qui sont parties, pour la plupart, c'est pas le cas. Les Padovani, les Santoni, les Ramelli, les Battestini, qui sont donc les grandes familles, retrouvent les villas. Eux, pour le coup, c'était déjà de très grands propriétaires terriens. Ce sont des gens qui, sur place, touchent les limites d'un point de vue géographique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup non plus de terrain, c'est pas très grand. C'est
voilà, grand propriétaire terrien, ils devaient se sentir étriqués quand même.
Donc il y a ça, plus le contexte économique qui est quand même assez dégradé. Et puis, vous m'avez demandé en off de chercher des gens qui sont partis, qu'on nomme d'Aberrément, les Dizis. Ouais, j'en ai trouvé un. On vivant, on y. À moi va venir. Donc, on va juste.
Donc, moi, c'est les gens, c'est ça qui était déjà installé.
Ouais, vous étiez bien.
Et vous, bien sûr, l'aventurier est dans votre famille.
Eh oui, pas. Les aventures. Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais on va en parler d'un en particulier parce qu'il a une histoire quand même intéressante. Pedro Santubi Vivoni. Il décide de partir en 1856 de Cisco et il a 16 ans. Hein. Fioro Ibaizano, FDP. Ou Mao, ou Ero. Ou di perché per tutto, perché con la zappa beremane.
Ouais. Et vous allez me dire que ce charmant jeune homme de 16 ans, qui a une main devant, une main derrière, il n'est pas allé rejoindre les gens de Cisco qu'il connaissait.
Mais apparemment pas. Ah. Il a débarqué là-bas, il a mangé le pain noir, et à 19 ans, il se marie avec une fille de 15 ans qui est la fille d'un riche propriétaire terrien.
Malin.
Maligne. Ouais. Et petit à petit, il arrive à développer des haciendas, ce qu'on appelle, il prospère dans le café, dans la canne à sucre, s'implante dans la vie politique locale et devient député de Puerto Rico.
Waouh!
Voilà, quand même, pour quelqu'un qui est parti de rien. Et cet homme-là, justement, s'appelle Ujimiderio di Levanti. Hein, il disait, parce que quand il est devenu âgé, il a une fille qui est tombée malade et il s'est dit, la seule chose qui peut la sauver, c'est l'air de Cisco. Et ils sont tous les deux enterrés à Cisco parce qu'ils sont morts in paese. Ils sont rentrés quelque part mourir à Cisco, pour la petite histoire. Et ça donne justement des histoires humaines assez particulières, puisque aujourd'hui, dernièrement, j'ai des gens de ma famille, mon frère, mon père qui sont partis à Puerto Rico pour rencontrer un petit peu ces Corses de là-bas. Alors on a un peu tous les profils, on a des gens qui sont complètement américanisés ou sud-américanisés mais qui ont une connaissance extrêmement aiguë de la généalogie de leur famille, qui sont quand même très attachés à
leur
racine.
Pour répondre à ce que vous disiez, Jean-André,
Et notamment, il y a une anecdote que mon frère m'a racontée qui est très drôle. Donc ils sont dans ce rassemblement, là il y a une grosse bagnole ricaine qui arrive, la grosse américaine, oui bon, un mec qui sort, ou gapilo, enfin la totale quoi, un vieux cow-boy, personne très âgée, quelqu'un qui avait plus de 85 ans. Alors il faut savoir qu'à Cisco, il y a un lieu dit qui s'appelle la Bartinacha, c'est un très grand champ avec un payadio qui aujourd'hui est effondré au milieu et qui a été un des principaux champs à blé de Cisco. Donc cet homme rentre dans la pièce, il parle très fort anglais avec un fort accent américain, voilà, vous voyez un peu le genre. Et soudain, il se tourne vers mon frère et il fait, c'est ce que c'est doux. On veut des nus de passer de l'accent. Réveillé. On voit des exemples au grano à Bartinaccia.
Non, c'est pas possible.
Con l'accentuzio, de parler un corso.
C'est fou ça comme histoire.
Et moi j'étais marqué quand j'étais petit de l'accent justement des Santoni, des gens qui revenaient, qui étaient partis de Cisco dans les années, presque au début du siècle, quoi. Il conserve au niveau linguistique une photographie à un instant T de Cisco de cette époque. Il parle encore ce qu'on parle plus, nous, quoi. Et lui, c'était son cas. Donc, quelque part, il y avait dans le disque dur un petit dossier oublié dans un coin où il y avait tout qui était là et tout comme on l'a plus, nous. Voilà, pour la petite histoire. Ça donne quand même des aventures humaines assez complexes et assez intéressantes, quoi.
Et nous, c'était la langue espagnole. Je sais pas si chez vous, on parlait espagnol.
Oui, mon grand-père. Mon grand-père, il était licencié en espagnol.
Et oui.
Donc, lui, il était la génération juste après. Donc, il était né en 1880 et quelque chose. Lui, il n'a jamais travaillé. Donc, il était licencié en espagnol. Il a fait ses études dans le 16e arrondissement à Paris. Il a passé son enfance sur les Champs-Élysées, avec les bonnes. Et donc, et le Corse... je pense qu'ils le parlaient, mais en tous les cas, ils l'ont appris. Alors, leurs enfants, mon père évidemment savait le corse, mais du coup ça s'est perdu. Enfin, je pense que ça vient aussi de là, quoi. Moi, on m'a pas appris le corse.
Non, il faut pas l'être. Et de toute façon, moi, je sais que les bonnes, la plupart des bonnes, en tout cas, dans ma famille, puisqu'il y avait des bonnes, n'étaient pas dans ma famille directe, Marc-André. C'était des générations. J'ai jamais eu de bonnes. Elles parlaient, en tout cas, espagnol. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Michael Andrani qui se met les mains sur la tête.
Ce sont de belles histoires. La bourgeoise du service.
Où peut-on, oui, la comtesse aux pieds nus, oui. Où peut-on trouver les maisons, justement, de ces vivognes et les tombeaux?
Alors, les vivognes ont un tombeau qui est consacré, et où, la notion de cimitero di levanti, il y en a beaucoup qui sont même nés à Puerto Rico, qui sont venus se faire enterrer à Cisco, ou bon, d'autres qui ont vécu toute leur vie au village. Il y a le tombeau des vivognes, le grand caveau familial à Cisco quand vous montez dans le village. Il est juste en dessous de l'immense tombe des Padovani, qui est plus belle que la plupart des maisons du village, qui est, c'est la belle chose qui dit. Et puis après, au-dessus, vous montez à Cisco, il y a la grande maison des Padovani, très grande, quand même servi de QG à la Wehrmacht pendant Deuxième Guerre mondiale, pour la petite anecdote. Vous remontez de là, et là, vous avez les deux grandes maisons qui se font face, les deux grands rivaux, les Ramelli d'un côté, les Santoni de l'autre. Et puis là, c'était les grandes rivalités des grands propriétaires terriens, qui, en plus de ça, une rivalité d'ordre économique qui se coupait à une rivalité politique. Posto che diranno sempre, li che diranno le timeri. Et quand ils gagnaient les élections, c'était à qui ils tiraient le plus pour taper sur le système à l'autre, quoi. C'est très particulier.
Et palais de mémoire, il faudrait des suites, hein. Il y en a des histoires à raconter. Hein. Vous songez
Il y a beaucoup de maisons. Hein.
Et ensuite, pour les Battestines, vous montez là-haut à Barigeon, il y a l'autre, la fameuse villa Saint-Pierre, une très très grande villa avec un grand parc là aussi. Mmh. Mais c'est troublant. Parce
ça,
que
c'est ma famille aussi, hein, vous le savez. Hein.
C'est vraiment bien né. Hein.
Oui, mais comme a dit Sylvia, allez, quand je suis née, il n'y avait plus rien. c'est souvent comme
ça. Vous avez toujours au poker, ça arrive aussi.
Dans ces histoires.
Enfin, les miens, ils ont beaucoup perdu au casino la fortune.
Hein. Ben, c'est ce qu'il a dit.
Moi, dans ma famille, côté Vivonne, il y en a qui ont mangé la fortune au poker au Venezuela et qui sont rentrés au village aussi à 50 ans, comme les bouillies, non? Parce que c'était aussi le backup, hein, où Perchtaillant, pour ça, ils partaient.
Pour être entrepreneur et pour être aventurier, il faut être un peu flambeur et un peu joueur de poker. Donc, ça, des fois, ça marche, des fois, ça ne fonctionne pas.
Mais beaucoup, certains sont rentrés vraiment au bercail parce qu'il y avait ça derrière. Ouais. Quoi. Ils tentaient, puis ils disaient, bon, allez, on s'est planté, on rentre. Et rentrer au village à 50 ans, ils avaient vécu. Hein. Ah, c'est dingue, c'était de sacrée vie, quoi.
Jean-André.
Il y avait aussi beaucoup d'histoires de mariage, de bons mariages.
il l'a dit tout à l'heure.
C'est apparemment ce qu'on dit. Après, Salva Verida, Sobetiestour, et bon, je vais pas, voilà, on romance un petit peu, évidemment. Voilà, si c'est Isis Casimistana Sainte et qui c'est Qualquicia, qui a des détails, des histoires, il y en a sûrement 50 et sûrement omis quasiment tout. Donc voilà, n'est boire mon bar là. Hein,
bien sûr.
C'est sans aucune prétention, évidemment.
Et puis, allez trouver Jean-André et Sylvia, et comme ça, on fera un livre sur la région de Cisco exclusivement. Palais de mémoire, Palazzi d'Amerigani, d'Iuga Pigours, où c'est un très beau livre, c'est publié chez Albian. Et puis voilà, vous entendrez ce type d'histoire, et puis vous découvrirez les photographies de ces maisons, dans lesquelles, pour la plupart, vous n'avez jamais pénétré. Vous avez peut-être vu les façades, les portes d'entrée, mais vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur. C'est l'occasion avec ce livre, et je vous en remercie à tous les deux. Je sais que vous aimez beaucoup le cinéma, et l'un et l'autre.
Oui.
Alors vous participez carrément à Arte.
Oui, j'ai réalisé aussi un film sur Mookie.
Oui.
Et un avec Sylvia, un 26 minutes sur Paroles dévoilées qui a été au musée de Bastia il y a 2 ans.
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans.
Ouais. Au niveau de la mémoire, ils sont très forts. Hein. Bravo d'en avoir choisi ce titre parce que vous êtes hyper forts en date et en nom. Et je vous remercie tous les deux. Donc vous qui êtes férus de cinéma, nous allons en parler avec Laurent Hérin. Qu'est-ce qu'on voit demain?
Alors demain, on sait que Noël approche, donc il y a les sorties pour les enfants avec La Famille Adams, une nouvelle version de ce classique
cinéma
d'animation. Cinéma d'animation, ouais. Cette fois-ci, voilà, La Famille Adams, nouvelle version avec confrontée aux selfies et aux petites jeunes filles qui vont à l'école, au collège. Donc on va voir ce que ça donne, pas encore vu. Pour les un peu plus grands, pour les adolescents, Jumanji, Next Level, qui est la suite du Jumanji d'il y a 2 ans. Qui était en fait un remake du Jumanji de 1996. Voilà, le précédent n'était pas incroyable. Je pense pas que
il était incroyable. J'ai adoré.
Le
deuxième. Je le trouve. Je suis l'une des rares à l'avoir idolâtré.
Ouais, je crois.
Ouais, moi, je le trouve.
C'est bien, il faut.
Absolument dément.
Bon, on verra si la suite est à la hauteur, Marie. Ouais. Vous allez voir ça.
Comment
au
s'appelle cet acteur génial, Joe Black ou quelque chose?
Non,
comme...
Dwayne. Ah oui, il y a aussi
Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson, mais là,
il y a Joe Black.
Joe Black,
s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça. Sinon, Brooklyn
Jack Affair. Jack Black, pardon. Merci Tony Jaffer.
Il y a Brooklyn Affair, de Edward Norton, qu'on connaît comme acteur plutôt. C'est son deuxième film, il avait fait Au nom d'Anna en 2000. Et Le meilleur reste à venir, comédie dramatique de, du duo qui avait réalisé Le prénom. Je pense que vous vous souvenez avec...
Oui.
Voilà, tout à fait.
Avec Patrick Bruel.
Alexandre Delapaillère et Mathieu Delaporte, si je ne dis pas d'erreur, en 2011. Donc là, c'est à nouveau un duo et c'est Fabrice Lucchini, Patrick Bruel. Ouais. Il y en a un des deux qui est malade, on ne sait pas lequel, et qui décide de l'accompagner sur les derniers instants.
Bon, à votre ton, on n'y va pas, quoi.
Si, avec grand plaisir.
D'accord. Commencez à le connaître, chers auditeurs, ça veut dire, si vous avez autre chose à voir, voilà.
Ah ben, on ne va pas se mentir, mes deux coups de cœur de la semaine, c'est le Elia Souleymane, It Must Be Heaven, qu'on a découvert pendant Artemar, on en parlait, voilà, qui a eu le grand prix Artemar, le jury l'a encensé. Il y a eu un prix aussi à Cannes.
Passage à Cannes, hein.
Oui, tout à fait. Et un prix à Cannes, un prix spécial pour la carrière de Souleymane, qui est largement mérité, puisque c'est un film incroyable, une fois de plus. Souleymane quitte sa Palestine, part lui aussi à l'aventure, comme ses Corses qui partaient, et qui décide de traverser. Il va à Paris, il va aux États-Unis, à New York, et sa vision de nos villes, de Paris ou de New York, est juste exceptionnelle. Et Seules les bêtes, le film de Dominique Moll, le nouveau film de Dominique Moll, qui avait bien cartonné quelques années avec Harry, un ami qui veut feu dit bien.
Ah, c'était avec, bien ça.
Et avec un acteur incroyable, que vous adorez, Marie. On parle bien sûr de Damien Bonnard.
Damien Bonnard, car pas de chronique de Laurent Hérin sans parler de Damien Bonnard.
Allez, c'était la dernière, j'avais dit que je le citerai trois fois, c'est fait.
Il n'arrête pas de tourner ce garçon.
Oui, il a beaucoup tourné cette année, J'accuse, Les Misérables et celui-ci. Ouais. Un petit mot sur le cinéma encore, si on a le temps.
Non, juste un petit mot sur Seules les bêtes avec Damien Bonnard, ça parle de quoi vite fait?
Rapidement, c'est une histoire qui se croise entre une disparition d'une femme dans la montagne. Elle disparaît un matin, les policiers se mettent à enquêter et on se rend compte qu'il y a de multiples raisons à cette disparition, ça finit même en Afrique.
Il joue pas encore. Un policier quand même, Damien Bonnard.
Et cette fois-ci, il joue le paysan, Joseph. Il est assez impressionnant.
Parce que là, il a enchaîné beaucoup de rôles de policier.
C'est vrai.
Le cinéma corse.
Oui, le cinéma corse cette semaine. Alors, on en parlait hier à l'émission, Michael Andréan y en parlait. Il y a toujours le Cinéchi, mais à Francardou, jusqu'à la fin de la semaine. On peut enchaîner à Lille-Rousse avec les Rencontres de la Comédie, organisées par le Festival du Film de l'Âme. Donc, c'est intéressant de voir des avant-premières.
C'est quand?
C'est du 5 au 7.
D'accord.
Voilà, au Fogat. Tchétché à quoi vivre. Et surtout les
Et il y aura d'ailleurs un festival aussi, hein, autour de la musique et du cinéma, toujours au Fogat.
Cinélise ou la Musica, qui sera au mois d'avril, normalement. Ouais. Et l'Ellipse, les 5 ans, l'anniversaire, on peut fêter ça. Michel Simon-Giovanni faisait la une de Corse Matin aujourd'hui. Voilà, l'anniversaire de l'Ellipse, avec en point d'orgue, ne pas oublier le film de Frédéric Farrucci, en avant-première exceptionnelle.
Oh là
et
là
oui,
là.
Le film sortira en mai. Donc vous voyez, c'est une belle, belle surprise. Il sera à Ajaccio samedi 7 pour le présenter.
Mais c'est formidable ça.
La nuit
enfin,
venue.
La nuit venue, on en parle aussi dans toutes nos chroniques en disant c'est quand qu'on pourra découvrir, parce qu'on aime beaucoup le cinéma de Frédéric Farrucci, qui signe ici son premier long métrage et qu'on a très, très envie
de
découvrir. Comme nous avons hâte aussi de découvrir le film de Gabriel Lebaumin, qui lui sortira aussi au printemps.
Oh non, beaucoup plus tard, malheureusement. Ah. Oui, pas avant 2021, maintenant, apparemment.
Ah bon, c'est retardé?
Oui, c'est pas fait pour cette année, ouais.
Eh ben voilà, eh ben écoutez, on va en parler longtemps, donc, avant de le voir. Merci beaucoup, Laurent Hérin.
Merci à vous, Marie.
Merci Marc-André Castellane, je ne vous ai pas remercié pour ce
merci
petit passage historique du beau village de Cisco. Merci Michael Andréani, une nouvelle fois d'avoir évité de parler de Cisco, bravo. Et puis Palais de mémoire, donc c'est le livre que nous vous conseillons, signé Sylvia Ganinac et Jean-André Berthaud. Il s'est publié chez Albiane, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Puis il y aura une exposition, il y en avait une avant l'apparition du livre au musée de la Corse à Corté. Il y en aura une autre donc à l'Albor ou à Bastia, ce sera au mois de février et vous nous donnerez la date très prochainement. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Au revoir. Merci beaucoup.
Smile a little too much, and the glass becomes quite too much. CFM.
Alors la cuisine ok, le lave-vaisselle ok, le four ok, plus que le frigo et on est bon.
Attends, je vérifie. 30, 80 centimes, 1 euro, parfait. Allons choisir le modèle.
Et oui, chez Ikea jusqu'au 12 janvier, avec la carte gratuite Ikea Family, le troisième électroménager est à 1 euro pour tout achat d'une cuisine d'un montant minimum de 2000 euros, hors électroménager.
Ikea.
Voir conditions sur Ikea.fr.
7e édition du Salon de la formation et de l'orientation de l'Université de Corse. Lycéens, étudiants, venez découvrir les campus universitaires et l'offre de formation DUT, licence et master d'Iluniversida. Les enseignants et les acteurs de la vie étudiante vous donnent rendez-vous pour une journée portes ouvertes à Corte, mercredi 4 décembre, de 8h30 à 13h, dans la Halle des Sports, Campus Grimaldi. Informations sur www.universida.corsica.
Agir plus d'EDF, à Colitiuta di Gorsica et l'Ademe. L'énergie a une oustre à Ben. Tenim ou la compte.
Bonsoir.
Achetez-moi
bonsoir, ça y est. Non, non, bonsoir, oui, c'est un casque de Chine. Bonsoir à tous.